témoignage aujourd'hui des Hoguets dans cette même attitude où le ciel est ouvert, le ciel est ouvert sur nos vies, sur la Suisse romande, pour tous ceux qui veulent. Et je vais laisser à présent les Hoguets. Je vais juste prier si vous voulez, puis on va rentrer dans ce moment de partage. Père, merci pour ce petit déjeuner. Seigneur, c'est vrai, on n'a pas prié avant. On veut prier simplement après en disant merci. Merci parce qu'on a eu en abondance ce matin, on a été béni, on a pu goûter à tous tes fruits de cette création. On a été enrichi par les relations des uns et des autres. Et Seigneur, on veut continuer, Seigneur. On te demande de venir au milieu de nous, de semer avec ton esprit, cet esprit d'amour, de paix, de bonté, de tirer des liens entre nous qui sont indestructibles. Et Seigneur, que ceci reste pour l'éternité. On veut prier ce matin que cette famille Hoguets qui va nous partager ce témoignage, il y a pour chacun de nous une révélation pour nos couples, nos familles, pour nous en tant que personnel, pour les enfants aussi. Seigneur, à toi la gloire pour tout ce que tu fais dans leur vie et dans nos vies ce matin. Amen. Et voilà, à qui je donne la parole, parce qu'ils vont travailler en équipe ce matin. Équipe familiale. Et c'est Joe.
C'est parti.
Bonjour. Alors, nous, Joudon, avait à cœur de vous parler de notre famille, de notre vie de famille. Et c'est vrai que beaucoup nous font l'éloge sur notre famille, mais pourtant ces personnes, elles voient souvent un aspect de notre famille, et elles ne voient pas les faces cachées de la famille. Et c'est vrai qu'aucune famille n'est parfaite. Puis ben, nous aussi, on a nos défauts, on a aussi des zones où on sait que c'est dangereux pour nous. Par exemple, les départs, on sait que ça a vite, tendance à vite chauffer pour les départs, et donc on s'est mis des règles, on veille vraiment sur notre comportement, on essaie de ne pas irriter les autres lors des débats. Par exemple, on a par exemple mis en place qu'après 10 heures, on ne faisait plus de débat. Et tout ça pour dire qu'une vie de famille, ça se construit. Et on avait vraiment à cœur tout d'abord de louer Dieu, de le remettre au centre de cette célébration. Et on a pris quelques chants pour montrer, enfin pour dire à Dieu que tout est possible. Et on n'a pas envie que vous vous sentiez culpabilisé, que vous vous sentiez... que tout ce qu'on vous dise soit un poids pour vous, mais au contraire, on veut vous donner le message que c'est possible et que c'est des clés, c'est juste des choses qu'on a trouvées et qu'avec Dieu, c'est possible d'avoir des familles presque parfaites.
Qui ouvre la mer pour nous sauver de l'oppresseur. Tu es le seul qui ouvre la bouche pour faire pleuvoir le pain du ciel. Y a rien qui soit au-dessus de toi. Comparable à toi, Sauveur glorieux, oh, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Seigneur puissant, il n'y a rien qui soit comparable à toi, Sauveur glorieux, tu es le seul qui guide ton peuple. Matin et soir, dans ton royaume, tu es le seul qui nous répond, bien au-delà de nos attentes. Oh, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Seigneur puissant. Il n'y a rien qui soit comparable à toi, Sauveur glorieux. Oh, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Seigneur puissant. qui soit comparable à toi, Sauveur glorieux.
Tu es un Dieu puissant, et ce matin nous voulons juste te remercier.
Tu as restauré, guéri des malades. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as délivré, relevé des morts. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as restauré, guéri des malades. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as délivré, relevé des morts. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as restauré, guéri des malades. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as délivré, relevé des morts. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Seigneur puissant. Il n'y a rien qui soit comparable à toi, Sauveur glorieux. Oh, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Seigneur puissant. Il n'y a rien qui soit comparable à toi, Sauveur glorieux. Oh, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Seigneur puissant. Il n'y a rien qui soit comparable à toi, Sauveur glorieux.
Seigneur, nous voulons vraiment implorer, enfin placer cette matinée sous ton autorité, Seigneur. Nous voulons placer nos vies de couple et de famille sous ton autorité. Et comme on le chante, il n'y a rien qui soit impossible à toi. Seigneur, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, c'est sûr qu'il y a des défis, c'est sûr qu'il y a des zones rouges. Comme on l'a dit, c'est sûr que c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui demande de l'effort. Mais Seigneur, avec toi, rien n'est impossible. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin, au travers de cette matinée, au travers de ce témoignage. Rien n'est impossible à toi. On peut te remettre toute situation. Et tu es celui qui nous fait traverser la mer. Tu es celui qui nous fraye un chemin, Seigneur, au milieu des difficultés. Tu es devant, derrière, par-dessus, par-dessous. Seigneur, tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous ? Merci Seigneur pour ton autorité sur nos vies. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci parce que tu es celui qui nous aide à relever les défis, quels qu'ils soient.
Là, on va encore chanter que Dieu, il est puissant, qu'il est élevé, qu'il est au-dessus de tout, parce que c'est ce que nous voulons proclamer ce matin.
Et en son nom, on a la victoire, les amis. Et ça, c'est la bonne nouvelle.
Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant.
Tu es puissant. Et ce matin, nous voulons juste te remettre cette célébration sur entre tes mains, Jésus. Vraiment, viens révéler à chacun de nos cœurs ce que tu as à nous révéler ce matin. Nous avons tous quelque chose à recevoir. Et nous t'invitons ce matin avec ta présence, Saint-Esprit.
Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Alléluia. Sans la présence de Dieu, puis je voudrais juste, c'est pas, je vois ça dans l'esprit, est-ce qu'on peut se tourner juste sur notre voisin qu'on connaît pas? Si vous êtes des couples, allez vers un autre. Puis priez, bénissez la personne qui est à côté de vous. Priez pour elle, qu'elle puisse être bénie, que cet été soit merveilleux, qu'elle puisse être remplie de Dieu. Puis vous priez les uns pour les autres. On prend 5 minutes comme ça. Allez vers les uns, vers les autres. Même si vous ne connaissez pas, allez-y, priez simplement. Priez pour les uns les autres. Allez-y. Continue à jouer, David.
Juste proclamer que tu es puissant, proclamer que tu es au-dessus de tout, proclamer. proclamer que tu es vraiment tout ce dont on a besoin. Vraiment proclamer que tu es ce grand sauveur glorieux. Et merci parce que tu, malgré notre nature imparfaite, malgré par tout ce qu'on faillit. Ouais, Jésus, on est tellement imparfait. Moi, j'ai remarqué hier, il y avait du combat, Jésus. Mais ce matin, on est là et on veut vraiment donner des clés. On veut vraiment témoigner pour ta gloire, Jésus. Et je te prie vraiment pour chacune des personnes ici, qu'elles soient vraiment là et qu'elles puissent recevoir ce que nous avons à apporter, ce que tu as à leur dire, Jésus. Et vraiment, mets tes mots dans notre bouche et que ton Saint-Esprit nous envahisse cette pièce maintenant. Parle au travers de nous. Parle dans les cœurs. En ton nom, tu es puissant. Tu es très saint.
Seigneur, on aimerait te remercier vraiment pour ce temps. J'ai cette pensée que si vous êtes là, si vous entendez cette voix de Dieu, si vous entendez vous laisser toucher, restez ouvert à ce que Dieu veut vous dire, pas parce que nous on veut dire, mais si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. J'avais cette pensée-là et soyez béni, merci Seigneur pour ce temps qu'on va vivre. Je laisse pas parole à la femme.
J'invite ceux qui prient encore à gentiment se rasseoir. Ok, donc pour ce matin, on a essayé de construire notre témoignage en famille. On a essayé de mettre un fil rouge. J'espère que vous arriverez à nous suivre. Et puis, on avait à cœur que ce ne soit pas toujours la même personne qui parle. Du coup, on va se passer de temps en temps le micro. J'espère que ce ne sera pas trop perturbant, mais que pour vous, ce sera un moment agréable. Le thème général, c'est « Mettre Dieu au centre de notre vie ». Personnel, de couple, de famille. Et en fait, souvent, quand on accepte Christ, on se dit « Ah ben c'est super, on a un jour une révélation de qui il est, qu'il est, ben voilà, qu'il est mort et ressuscité pour nous, puis on l'accepte dans notre cœur, et puis Jésus, on le met au centre de notre vie, et on met sa croix dans notre vie ». Et on est dans la reconnaissance, on se dit « Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci de nous laver, nous purifier, nous sanctifier. » Puis on s'attend à ce que petit à petit, sa couleur, elle est dans notre sauce. Et en fait, j'ai réalisé à l'adolescence que ce n'était pas Jésus qui venait dans ma vie et dans mon cœur, puis qui venait remplir ce que moi je voulais bien lui laisser remplir, qui était un peu notre roue de secours, mais en fait... C'est plutôt moi, avec toute ma vie, qui va dans le royaume de Jésus. Et par là, c'est exprimé, ben, Jésus, ce n'est pas seulement notre sauveur, celui qui nous fait du bien, qui est avec nous, mais c'est notre Seigneur aussi. C'est nous qui allons dans son royaume, c'est nous qui allons entrer dans ses projets pour nous. C'est plus seulement Jésus, qu'est-ce que tu veux faire de bien dans ma vie, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter à ton royaume ? Et donc, avec cette vision-là, eh ben, c'est clair que pour moi, une chose importante, c'était de me marier avec quelqu'un qui avait les mêmes convictions que moi et qui allait dans la même direction. Pour ça, j'avais envie d'illustrer quelque chose avec les enfants. Alors, c'est un peu sport parce que ceux qu'on a aujourd'hui, ils sont un peu petits. Mais en fait, le mariage, c'est un petit peu comme une course à trois pieds. On est deux. Et on a le pied du milieu qui est attaché. Et chacun garde une partie de qui il est, de son individualité. C'est la jambe qui est libre. Et il y a une partie qui doit s'unir à notre conjoint. Ça, c'est les débuts. Alors, je vais le dire parce que ça a l'air un peu difficile. Voilà. Voilà, le but pour les enfants, c'est de rejoindre André. Ouh. Voilà, on essaye. Alors, votre but, c'est d'aller vers André. Allez, Hugo. Moi, je propose qu'on les applaudisse quand même. Merci les enfants. Je vais vous réexpliquer ce que je voulais illustrer. En fait, dans une course à trois pieds, quand on est attaché dans le même sens, c'est plus facile. Et normalement, c'est nous qu'on gagne. Donc, le groupe qui était attaché dans le même sens, normalement, il devait gagner. Si on est attaché à rebrousse-poil, ça devient plus compliqué. Parce que pour aller vite, ben chacun va de son côté. Et c'est faisable, mais c'est plus compliqué. Et pour nous, dans le mariage, c'était important qu'on aille dans la même direction. Qu'on ait la même vision de la vie de couple, de famille, qu'on ait le même Dieu et qu'on puisse vraiment partir dans la même direction.
Moi, voyant ça, je me disais, mais Hugo, lui, il était derrière, puis il tirait dans le même sens. Donc c'est sûr qu'ils allaient dans le même sens, mais s'il y en a un qui tire derrière, c'est... Voilà. Bon, je trouvais...
Et quand on s'est rencontrés avec Alexandre, ben, moi j'étais toute contente parce qu'il était chrétien. Waouh, génial! Sauf que lui, il rêvait d'aller en Afrique. Et moi, j'aime pas les petites bêtes, c'était vraiment pas mon truc. Ça faisait des années que je luttais avec ça, et si Dieu m'envoyait en Afrique... Donc, on a vraiment dû se placer devant Dieu, parce que personnellement, je ne voulais pas être un frein à l'appel que Dieu pouvait avoir sur sa vie. Hein. Et c'était important pour moi que je puisse apporter ma contribution à son appel et pas qu'il soit empêché d'entrer dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a dû remettre à Dieu. Et voilà, il nous a donné la paix, on s'est mariés. Et vraiment, le mariage, c'est plus très à la mode. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui vivent ensemble, mais un peu à la colle comme ça. Et je priais par rapport à ça, je disais, mais en fait, qu'est-ce qui nous a poussé, nous, à nous marier, plutôt que simplement vivre ensemble ? Et j'ai eu cette pensée de la différence entre un emploi fixe et un emploi temporaire. Les emplois temporaires, c'est super, quand on est jeune, quand on veut voyager, quand on a plein de projets, parce que on trouve un emploi, on reste 2-3 semaines, après on peut voir une autre entreprise, on peut changer, si on veut partir en voyage, on part en voyage, en 2-3 jours on peut se libérer. Puis c'est bien, ça va un moment. Mais après, quand on veut construire une famille, qu'on a des enfants, ben, en général les gens ils préfèrent un emploi fixe, parce que ça donne une stabilité, ça donne une sécurité aussi. On sait qu'on ne va pas être mis à la porte du jour au lendemain. Et pour moi, le mariage, c'est ça, c'est une alliance. C'est une alliance qui représente déjà l'alliance entre Christ et l'Église, Mais c'est aussi une alliance qui donne de la paix, qui donne de la sécurité. On sait qu'on va construire quelque chose de stable et que s'il y a des problèmes, parce qu'il y en aura et il y en a, mais on sait que l'autre, il ne va pas s'enfuir du jour au lendemain. On sait qu'il est là et qu'on est dans le même bateau et qu'on va aller sur la durée ensemble. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi de se marier. Et finalement, on est parti en Afrique. Et Dieu a pourvu et Dieu était super avec nous. Et puis, la chose encore que je voulais partager, c'est par rapport aux enfants. Souvent, on prie Dieu pour plein de choses. On prie Dieu pour son conjoint. On prie Dieu pour le choix d'un travail ou d'un métier. On prie des fois Dieu pour où est-ce qu'on va aller habiter. Mais c'est assez rare qu'on prie pour savoir combien d'enfants on aimerait avoir. Ça, c'est un peu notre zone à nous. On se met à prier quand on a envie d'avoir des enfants puis qu'on n'y arrive pas. « Oh Seigneur, viens nous aider !» Mais quand on en a, en général, on est assez « Ah, moi j'en veux deux, moi j'en veux trois. » Ou on a des idées assez précises sur le nombre d'enfants qu'on veut avoir. Et puis, c'est assez rare que j'entende des gens qui nous disent « Ah ben nous, on a prié pour savoir si c'était juste d'en avoir un de plus ou pas. » Et nous, dans notre couple, moi j'en avais envie de quatre. Alexandre, je pense au début, plutôt deux. On en a fait trois. La barque était déjà pleine, mais moi, quand même, j'avais une petite frustration dans mon cœur parce qu'un quatrième, ça m'aurait bien plu. Mais on s'est remis devant Dieu, puis on a prié un jour dans notre salon. Et il y avait ce tableau qui était affiché au mur, et Dieu m'a vraiment parlé au travers de ce tableau. Il m'a dit, Catherine, c'est plus le moment d'entasser des enfants dans ta famille comme des pierres sur ce tas de pierres. Avec l'image qu'un tas de pierres, ça paraît très solide. Mais si on met un coup de pied dedans, il s'écroule assez facilement. Et c'est vrai que quand on a eu trois enfants, ben, la barque, elle était un peu... ça allait, mais il y avait quand même... on en avait trois, puis c'était pas tout facile. Et Dieu m'a parlé par rapport à cette image du panier en osier. Un panier en osier, c'est tout léger, ça paraît tout fragile. Mais en fait, si on donne un coup de pied dedans, il reste ensemble. Il va se déplacer un peu, il va bouger, tanguer, mais ils restent ensemble. Et sur cette image, on voit qu'il y a deux lignes verticales. Et c'est comme si Dieu nous disait, maintenant c'est le moment de construire ta famille autour de la prière et de la parole de Dieu. Et puis il nous a donné ces deux axes pour construire notre vie de famille, pour qu'elle soit solide, d'instaurer la prière et la parole de Dieu dans notre vie.
Ouais, je veux aussi dire que c'est vrai qu'avoir des enfants, avoir un, deux, trois enfants, c'est aussi pour nous, c'est de se savoir, parce que Catherine, on voulait quatre, mais c'est vrai que comme elle disait, à trois, c'était déjà space sport, quoi. Quand vous êtes en mode survie à trois, vous dites, est-ce que quatre, c'est bien? Je pense que c'est important de se poser devant Dieu, puis de se dire, ben... qu'est-ce qu'on fait? Et puis, soit on a la foi pour un de plus, mais c'est vrai que nous, on s'est dit, ben non, c'est ça. Et puis, des fois, ben, d'en avoir un de plus, ça peut ébranler la dynamique familiale ou quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est vraiment chacun personnel. Puis, c'est aussi à devoir, dans notre cœur, avec Dieu, d'être en paix avec ce qu'on fait.
Donc, on m'entend? Oui. Donc, comme maman l'a dit, eh ben, les deux piliers principaux de notre famille, c'est la prière et la parole. Du coup, ben, on l'a mis en pratique dans notre famille. Et ces dernières années, ce qu'on fait souvent, c'est on fait la prière du dimanche soir. Qu'est-ce que c'est la prière du dimanche soir? Ben, c'est tout simplement, on prie le dimanche soir. Et donc, au départ, voilà, on se réunit au salon et chacun dit ses sujets. Dans la Bible, c'est noté dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Et comme c'est marqué qu'on doit le faire avec un cœur reconnaissant, on commence toujours nos temps de prière par un temps de reconnaissance. Après, on commence à prier sujet par sujet et puis comme ça, on peut avoir vraiment de bons temps de prière ensemble, on peut vivre vraiment plein de choses. Des fois, ça peut être plus court quand on est fatigué, quand on a des choses grandes le lendemain, ou des fois, ça peut être plus long quand on chasse la maladie, on a des temps comme ça, et voilà. Mais malheureusement, pour moi, c'était toujours trop long. Il n'y avait pas un moment où c'était trop court. Et en fait, du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais, j'arrivais, j'étais là, on me disait d'aller prier, alors ça m'énervait vraiment d'aller prier. Et du coup, je faisais une prière ou deux, et puis après, j'attendais que la prière se finisse, puis après, j'allais me bouger. Et en fait, récemment, j'ai compris quelque chose. Que par exemple, à l'école, par exemple, au cours de français, je vois mes amis, mais ils s'ennuient, ils sont assis sur la chaise, ils s'ennuient pendant tout le cours de français, ils attendent que la récré arrive, et puis après, ils sortent. Puis moi, je ne me suis jamais ennuyée, et en fait, ce que je réalise, c'est que je lève toujours la main, je pose toujours des questions, je participe tout le temps, et je m'ennuie jamais. Et j'ai compris que c'était la même chose pour la prière, que s'il fallait que, enfin si que je voulais ne pas m'ennuyer, bah fallait peut-être que je commence à prier. Mes parents ils m'ont jamais obligé à aller prier, mais je sais pas pourquoi, mais j'y allais toujours, même si ça m'énervait d'y aller, j'allais toujours. Puis je pense vraiment que la prière est attirante sans forcément qu'on s'en rende compte. Et du coup, ben, ces temps-ci, j'essaye de plus en plus prier. Et puis effectivement, c'est de moins en moins long. Et c'est de mieux en mieux. Et récemment, il y a quelques semaines, c'était tard le soir, on est allé. Et moi, je me suis lavé les dents, je suis allée me coucher. Et puis là, j'ai senti quelque chose qui était bizarre. J'étais là, non mais là, il y a... Et quelque chose qui est bizarre. Et en fait, j'ai réfléchi et j'ai réalisé qu'on n'avait pas prié ce dimanche, qu'on avait oublié de prier. Puis là, j'étais là, je me suis levée, j'ai dit « Maman, on n'a pas prié !» Vraiment, ça faisait bizarre. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que la prière, c'est de la sainte drogue. Parce que même quand tu pries pas, et ben après, ça te fait bizarre de pas prier. Du coup, voilà.
Je veux juste dire quelque chose. N'appelez pas le dimanche soir les hoguets. Non, mais je le dis. Je suis témoin. Il faut remonter un peu le volume, là. Je pense que c'est le petit réglage que vous avez fait. Donc, n'appelez pas le dimanche soir, parce que le dimanche soir, il prie. Et ça va sonner très longtemps. Il n'y aura personne qui répondra. Et je trouve ça bon. Depuis que je les connais, j'appelle souvent le dimanche soir. Hop, j'oublie dans la prière. J'appelle pas. Donc c'est leur temps à eux. Et je trouve ça magnifique. Donc je voulais juste apporter ce côté-là. Je sais que c'est hebdomadairement sûr.
Moi je voulais revenir sur ce qu'a dit Mathieu. C'est vrai que nous, on n'a jamais... on leur disait de prier, mais ce n'était pas une contrainte pour eux. On leur disait, c'est la prière. Si tu n'as pas envie de prier, tu vas te coucher. C'est exclu que tu ailles voir un film ou faire des autres trucs. On prie ou on dort. Voilà, c'était le choix. Il y avait un choix quand même. C'était pas la prière. Donc, évidemment que ils avaient peut-être pas forcément envie de dormir trop vite. Donc, finalement, ils supportaient d'être debout pour faire la prière, pour prier. Mais je dirais, nous, on a toujours essayé de jamais imposer que ce soit la prière ou la foi. On a jamais essayé. On a dit, mais t'es libre de croire. Moi, j'ai vécu, je sais ce que j'ai vécu. Tu es libre de croire, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu crois, tu crois pas, tu es libre. Tu es de notre famille. On veut pas t'imposer, tu vois ce qu'on vit. Et je pense que s'ils voient que Dieu agit en nous, concrètement, que c'est du tangible, eh ben voilà, ils vont décider eux-mêmes. Mais c'est à eux de décider, c'est pas à nous à leur imposer. Ça, souvent, moi, je le ressens des fois qu'il y a des fois des jeunes qui leur a imposé, mais... Voilà, c'est comme on a fait.
Moi, je veux rebondir aussi sur ces prières du dimanche soir. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. En fait, juste pour vous situer un peu, il y a un an, j'ai eu une période où je bataillais pas mal au niveau de ma santé. J'ai fait une chute et j'ai eu des problèmes de dos, suivi d'une entorse à l'épaule. Et donc, pendant un an, j'ai ramassé beaucoup de galères au niveau de ma santé. Et juste pour vous rendre compte un peu, j'avais une douleur constante au dos en fin de journée. Je pouvais pas porter de sac. Avec mon entorse à l'épaule, je suis arrivé à des, à des sommets où je ne pouvais pas couper de pain, pas me brosser les dents avec mon bras droit. Et donc, je m'habillais avec mon bras gauche. Et puis, cette période, bah, j'allais vraiment mal. Et puis, mon moral il était un peu en bas. Et le fait qu'on prie en famille, bah, ça m'a vraiment beaucoup soutenu. Parce que le fait qu'on prie les uns pour les autres. Et la Bible dit croire en la guérison, croire quand on prie. Mais quand tu souffres, que tu as mal et puis que ton moral est en bas, bah, c'est difficile d'y aller tout seul. Et je trouve que c'est vraiment important que la famille ou l'église ou les amis, bah, on soit là pour s'aider les uns les autres. Parce qu'eux, ils m'ont vraiment aidé. En fait, ils m'encourageaient, ils me donnaient des versets, ils priaient pour moi, ils m'aidaient à croire. En fait, ils croyaient pour moi à ma place, ils me poussaient en avant. Et puis, ils ont... En fait, ils ont vraiment proclamé la guérison avec moi et c'est puissant quand on est ensemble. Donc, moi, je vous encourage, si vous avez des souffrances, des maladies comme ça, gardez le pas pour vous-même. Ça fait tellement de bien de le partager, puis on peut se soutenir. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis entièrement guéri. Et puis, je suis en bonne santé, je peux faire du sport et tout. C'est juste un miracle. Donc, la prière en famille, ça aide vraiment.
Je dirais la prière en famille, mais c'est aussi nous, New Life, c'est aussi une famille. Puis je crois que c'est, on a besoin les uns des autres. Je me rappelle David, il a peut-être dit partiellement, mais des moments il disait non, mais ça ira pas, quoi. Je resterai comme ça, je resterai dans cet état, je suis. Puis la famille lui a dit non, on va y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu ailles. Ce que dit la Bible, c'est qu'elle dit que Dieu veut qu'on soit guéri. Il ne désire pas nous coller des petites maladies, il veut. Donc, on va y croire. Puis, on a combattu, on s'est battu avec. Je crois que c'est pour le noyau familial, pour nous. Mais je crois que nous tous, on est aussi une famille. Et je crois qu'il y a des fois à batailler les uns pour les autres pour avoir justement cette victoire, pour avoir vraiment la victoire dans nos familles. Et... moi, je voulais dire aussi que je trouvais important, vous qui avez des enfants qui êtes là, je pense que j'ai déjà dit, je pense que c'est important. Moi, j'ai toujours fait, je crois que c'est une clé pour que nos enfants marchent avec Dieu, c'est de prier pour eux, mais même quand ils ne savent pas. Moi, je me rappelle, j'allais la nuit, j'ouvrais la porte tranquille, ils dormaient. Puis je mettais mes mains dessus, je dis « Seigneur, je te prie qu'ils deviennent celui que tu as prévu qu'ils soient. » Qui deviennent celui qui a prévu que tu as prévu quelque chose, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait rien qui bloque ça. Rien qui bloque ce que Dieu a prévu. S'il doit être un menuisier, il sera un bon menuisier. S'il doit être un médecin, il sera un bon médecin. Mais rien ne doit bloquer. Aucune ténèbre, rien du tout. Et pour moi, je trouve que, ils sont pas mal, quoi. Ils ont leur assez bien encore. Mais ouais, je pense que c'est une clé. En réfléchissant à ça, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une clé pour ça. J'ai aussi essayé de leur raconter des histoires. Moi, j'aime bien quelqu'un qui s'appelle Smith Wigglesworth, qui est un homme de Dieu qui a fait des miracles extraordinaires dans sa vie. Et souvent, je lisais ce livre, puis je disais, ah, ça, je vais le tourner en histoire pour eux. Puis je faisais l'imbécile devant eux en faisant l'histoire, puis en disant voilà ce qui s'est passé, il y a des trucs de fou qu'il a vécu. Et puis des fois, c'est ces trucs quand même de folie qui ne sont pas habituels. Les enfants, ils aiment ça. Ils aiment entendre ces histoires folles qui sont des histoires vraies. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Et je pense que ça a aussi eu de l'impact pour eux. Je crois que je vais arrêter.
Alors moi, je rebondis sur le fait que, en fait, je pense que ce qui fait que maintenant je suis dans la foi, c'est que, je pense que si les parents, ils nous obligent à aller à l'église, ils nous obligent à croire et tout, au bout d'un moment, t'es un peu dégoûté. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont vraiment fait en sorte que ça donne envie. pour que après finalement le choix de suivre Dieu, ben, il vienne de moi. Et au travers justement des histoires de ce prédicateur et de cet homme de Dieu qui vivait des grands miracles ou des histoires de la Bible, ben, il venait nous raconter ça le soir, ou bien il nous mimait ces histoires de la Bible, il lisait, il remimait comme ça. Et puis parfois on participait nous aux mimes et tout. Et puis c'était vraiment cool, ça donnait envie. Ou bien le soir, ou bien le dimanche matin, parfois c'est arrivé qu'on n'aille pas à l'église, et ben on faisait ce qu'on appelait l'église à la maison, on mettait un CD de louange, et puis il nous laissait un peu la liberté. Nous, on prenait des raquettes de tennis pour faire semblant de faire la guitare quand on savait pas encore jouer d'instrument, ou bien on tapait sur des caisses avec des bâtons pour faire la batterie ou des trucs comme ça. Puis c'était vraiment cool et ça donnait envie. Et ouais, donc ils nous ont vraiment présenté Dieu d'une manière qui donne envie. Ou quand ils nous ont raconté des témoignages de l'Afrique, bah ça nous a, moi ça me donne envie aussi de partir un jour en mission. Et puis ça nous a aussi, comme l'a dit Mathieu, toujours une attitude de reconnaissance, parce que le fait qu'ils aient été avec des gens qui ont beaucoup moins que nous ici en Europe, ben, ça nous a vraiment aussi appris à être reconnaissants. Et donc ils nous ont vraiment appris plusieurs choses, une chanson pour retenir les livres de la Bible. Enfin, ils ont vraiment présenté Dieu d'une manière qui donnait envie.
Et puis, allô. Et puis aussi, mes parents, ils ont eu l'idée extraordinaire de nous raconter des histoires de la Bible le soir. Le soir, quand les enfants n'ont pas envie de se coucher, ils font tout, ils vous écoutent, ils ont les oreilles grandes ouvertes parce qu'ils n'ont pas envie d'aller se coucher. Et bon, des fois, ils nous excitaient plus qu'autre chose, mais ils nous faisaient vraiment vivre et on écoutait d'une oreille attentive parce qu'on n'avait pas envie d'aller se coucher.
Je voulais te parler à toi, Catherine, justement. Tu vois, chérie, c'était quand même bien, hein, même de traîner le soir.
C'est vrai que moi, j'étais plus sur l'heure, mais des fois, ça débordait au-delà de ce que j'avais envie, mais c'est pas grave. Quelque chose aussi qu'on a essayé de vivre, c'est de vivre nos activités en équipe familiale. C'est-à-dire que si on recevait des visites, eh ben, quel que soit l'âge de nos enfants, on les impliquait dedans. Selon les âges, ben, soit ils mettaient la table, ou ils préparaient l'apéro, ou Mathieu, il aime préparer les entrées, puis faire quelque chose de joli sur les assiettes. Des fois, ben, avec ça, on leur a appris à faire des desserts, on leur a appris... Des fois, on les mobilisait aussi pour nous aider à ranger l'appartement quand il n'était pas en état de recevoir des visites. Mais on peut apprendre plein de choses, mais c'était vraiment l'idée, on est une équipe, et puis on a un but commun, et... On est tous dans la même barque. Puis s'il y en a qui ont des faiblesses, ben les autres y pallient aux faiblesses. Et enfin ça c'est quelque chose de fort qu'on a vécu.
Je rebondis là-dessus aussi. Je reviens au problème de dos que j'ai eu. Ben, vraiment, ils ont combattu pour moi. On était vraiment une équipe. Et puis je pouvais partager mes douleurs. Je pouvais demander à ma mère de masser un peu, à maman de masser un peu le dos quand j'avais trop mal. Et donc vraiment. On est une équipe, et aussi avec mes frères, on a vécu une cohésion. Quand on allait à une fête, on recevait des bonbons, on en prenait un peu pour les autres frères. Enfin, vraiment une cohésion, le fait de se partager ensemble en équipe. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'on était dans la même école ensemble, puis que nos frères, c'était un peu nos amis. En fait, ils faisaient partie du cercle d'amis. Et puis qu'on a fait beaucoup d'activités ensemble en famille. Et donc ça, je pense que ça nous a vraiment, vraiment unis. Et comme maman l'a dit, au niveau du service aussi pendant les vacances, on était impliqués à la vaisselle, à la cuisine. Et puis aussi quand il y avait des conflits, ce que je retiens toujours, c'est que, et maintenant encore on le fait, quand il y a un conflit, on essaye de le régler tout de suite, soit le soir même ou bien le lendemain matin, mais vraiment pas que le conflit il traîne, mais ouais, que les relations restent bonnes, On vient, on pardonne, on se dit désolé, c'était pas juste ce que j'ai fait. Et puis vraiment pour que l'équipe familiale elle reste soudée.
Il a parlé de l'école. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi ça m'a fait tirer les cheveux comme ça. Donc comme il l'a dit, on était de la même école, une école privée chrétienne. Et c'est vrai que les parents et les enfants aussi des fois un peu une mauvaise image de l'école chrétienne, mais moi j'aimerais vous faire remarquer ce que moi j'en tire. Tout d'abord, les parents, ils étaient impliqués. Ils nous amenaient à l'école.
Et puis, s'ils n'étaient pas d'accord sur une manière de nous punir, sur une manière de nous enseigner, ils pouvaient le dire au prof. Chaque année, il y avait un conseil de classe où chaque élève venait avec ses parents et les profs discutaient avec eux. Et donc, il y avait vraiment un suivi des parents. Ce qui faisait que, en plus de l'aide au niveau des devoirs à la maison, il y avait vraiment une présence de nos parents dans notre éducation. Et puis aussi, dans une école privée chrétienne, ils nous enseignent les valeurs de la Bible. Et quand à la maison, à l'église et à l'école, on nous enseigne les mêmes valeurs, et ben, un enfant, il se dit, ça doit être les bonnes valeurs, si c'est ça qu'on me dit toujours. Et puis, ben, j'ai fait un passage du privé au public, pour X raisons, et puis j'ai vraiment pu remarquer la différence entre les deux. Et je suis vraiment passé d'une école où l'amour, c'était une des valeurs principales, la paix, la confiance, où on priait ensemble, où il y avait une honnêteté. Je suis arrivé dans un endroit où il y avait une compétition entre les élèves, où il y avait du jugement, de la moquerie, où le langage était aussi différent. Et puis, tout simplement, au niveau des valeurs, c'est pas la même chose. Et puis, ça heurte. Moi, je me souviens, ce qui m'avait un peu le plus choqué, c'est mon premier cours d'éducation à la sexualité. En gros, le message, c'était « faites ce que vous voulez, mais protégez-vous ». Donc au bout d'un moment, quand on nous dit ça, puis qu'après à l'église et à la maison on nous dit autre chose, ça crée une instabilité, on ne sait plus trop quoi penser. Et je pense que si on a envie de donner le plus de chance à nos enfants d'être dans une stabilité, c'est bien d'avoir les mêmes valeurs enseignées partout. Et mine de rien, l'école privée chrétienne, c'est une école biblique. Moi j'ai fait 8 ans de ma vie dans une école biblique. Donc j'ai presque plus besoin d'en faire maintenant.
Bon, moi, j'aimerais juste rebondir là-dessus sur le fait que moi, je me souviens sur cette période, quand je repense aux profs que j'avais, en fait, je remarque vraiment que les profs, je les avais en modèle. Et du coup, le fait d'avoir des bons profs engagés dans la foi, qui vivaient quelque chose avec Dieu, bah, ça donnait envie d'être comme eux en tant qu'élève. Le prof qui t'enseigne, tu l'as en modèle. Et donc, si tu as des mauvais profs, suivant sur quel prof tu tombes au public, eh ben, c'est un mauvais modèle. Et aussi au niveau de mon identité, il l'a dit au public, il y a beaucoup de jugements, mais dans cette école, le souci, ce n'était pas d'être aimé, d'avoir des amis et d'être accepté, parce que ça, de toute façon, il y avait un amour, une cohésion ensemble. Le souci, en fait, c'était... Enfin, ce n'était pas un souci, du coup, c'était juste être soi-même et on avait le droit d'être qui on était. On ne ressentait pas ce jugement, on n'avait rien à prouver. On pouvait juste être qui on était et donc c'est ça qui m'a permis maintenant de savoir vraiment... Bah, qui je suis et puis d'agir comme moi je le ressens et pas en fonction du regard des autres.
Quand on a commencé à entendre parler de l'existence des écoles chrétiennes, Joël il avait 3 ans et Alexandre tout de suite il a dit waouh génial, oui il faut qu'on mette nos enfants là-bas. Et l'école la plus proche c'était Oron, donc à 15 km de chez nous. Ça voulait dire que ben, voilà, j'allais être mobilisée avec ma voiture le matin, à midi, l'après-midi pour faire des trajets. Et moi, franchement, je n'avais pas envie. Ça faisait 3 ans qu'on habitait dans un quartier avec l'école qui était à 2 minutes à pied de chez nous et que je voyais les mamans. On était vraiment dans un quartier où il y avait une bonne cohésion familiale, enfin, de quartier. Je voyais les mamans qui allaient amener leurs enfants, qui papotaient ensemble, qui allaient boire des cafés après. Je me réjouissais tellement d'entrer dans ce cercle de mamans, de faire encore plus connaissance avec les dames de mon quartier. Et puis... je me disais, ah ouais, c'est trop bien, quoi. Je me réjouis qu'il rentre à l'école. Puis là, Alexandre me dit, ah, tu sais, vraiment, cette école chrétienne, ce serait bien pour la cohésion et tout ça. Je dis, ouais, d'accord. Et puis, ben, comme pour tout, on s'est mis à prier. Mais on dit, Seigneur, finalement, qu'est-ce que toi, tu veux pour nous, pour nos enfants? Et j'ai reçu une image. Je ne recevais pas beaucoup à l'époque, donc ça m'a vraiment un peu impactée. Mais en priant, j'ai vraiment vu comme un jeune arbre qu'on plante en ville. Et souvent, ces jeunes arbres, on met du jute autour d'eux et puis on met encore une petite barrière pour éviter que tous les chiens aillent leur faire pipi dessus et puis qu'ils soient un petit peu protégés. Et après, quand le tronc il est suffisamment solide, on peut enlever ça parce qu'ils sont robustes. Et Dieu, il m'a vraiment dit, ben, tu vois, cette école, c'est pas un cocon, mais ça va leur permettre d'être solidifiés à l'intérieur, dans leur identité, dans leur foi. Et puis, quand ils seront suffisamment forts... tu peux enlever à quelque part cette protection et ils seront solides. Et ouais, ça m'a suffisamment interpellée pour que je me dise, ok, ben on va essayer, on le met une année à l'école en fautine et puis on verra comment ça se passe avec les trajets et tout. Et pour moi, j'avais vraiment ce souci de
comment est-ce que ça va se passer, leur réintégration dans le public. Et chaque année, on se remettait devant Dieu en disant, ah ouais, c'était une super année, merci Seigneur, mais est-ce que c'est toujours leur place? Et pour moi, c'était vraiment un pas de foi, année après année, que ce soit financièrement, que ce soit les trajets, mais surtout cette crainte que j'avais de leur réintégration au public. Et puis, on a vraiment marché ça dans un pas de foi. Mais souvent, aussi à la maison, tout d'un coup, ils lançaient quelque chose, puis on se disait, ah ben tiens, ça, c'est pas nous qui leur avons appris. C'est vraiment l'école qui leur a enseigné ça au niveau de la foi, et c'était vraiment une grâce.
Ouais, moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'aime encore, parce que j'y suis toujours, c'est rien que le fait que les copains soient chrétiens, qu'ils aient un peu les mêmes raisonnements que soi-même, eh ben, ça veut dire qu'on vit à peu près l'église tous les jours, aussi à l'école, et que ouais, ben, on a toujours les mêmes valeurs que l'église, que ce soit à l'école, et on l'a vraiment partout. Et aussi, ce qui est bien, c'est que cette école n'était pas non plus énorme, ce qui fait qu'on pouvait connaître un peu tout le monde, qu'on pouvait avoir une amitié avec tout le monde, qu'on pouvait développer ça et que, ouais, qu'on soit au clair avec tout le monde et qu'on puisse pas avoir de problème. Et aussi, juste avant les cours, on a des temps bibliques. C'est pas forcément des énormes moments où on apprend la Bible et tout ça, mais rien que le fait que chacun puisse dire un témoignage de ce qu'il est en train de vivre ces temps-ci, de dire ses problèmes, qu'on puisse prier. Moi, cette année, on a pris un livre, un cahier, et on a noté à chaque fois tous les sujets de prière. Et après, on mettait un vu quand ils étaient réalisés, et puis on priait pour ces sujets. Et maintenant, quand je regarde ce cahier, il y a presque tous les sujets qui ont été exaucés, et puis c'est vraiment beau, c'est aussi encourageant. Et aussi, ce qui est bien, c'est que quand il y a un problème, quand on s'énerve avec quelqu'un, effectivement, les profs et tout ça, ils essayent d'amener à toujours qu'on se réconcilie vite aussi. Et du coup, c'est le fait qu'on a un problème, hop, directement, il y a une solution et puis on peut se pardonner. Et après, on peut rester copains beaucoup plus longtemps. Et aussi, avec les copains et tout ça, par exemple, j'ai un copain qui a créé une sorte de club qui s'appelle Jedi Club, où ouais, on a pu... On a pu vraiment vivre des bons temps là-bas, où on a pu faire des jeux, manger des chips et tout ça, tout en vivant des trucs avec Dieu. On a pu faire de la louange, de la prière, on a pu parler un peu de l'actualité, de prêcher un peu et tout ça. Puis le principe aussi, c'est que le soir, on pouvait regarder un film Star Wars. Et du coup, bah ouais, c'était vraiment des bons temps où on peut toujours s'amuser, restant dans une bonne ambiance et en pouvant vivre toujours des choses où ouais, on a pu vivre, où il y a des personnes qui pleuraient, on a eu des délivrances, on pouvait dire des sujets un peu plus intimes et puis on savait que ça allait pas être redit plus loin. Et aussi avec la classe, on a pu créer un groupe de musique Ricochet où on a pu créer des chansons, les enregistrer. On a pu avoir un mini CD et on a pu même faire des pièces de théâtre dans les EMS et tout ça. Et rien que voir le sourire sur ces personnes plus âgées, et ben, ça fait juste plaisir. Et c'est cool de se dire qu'on peut aussi s'engager dans l'école pour pouvoir servir Dieu et pas juste forcément dans l'église. Et ouais, je pense que cette école, elle a permis vraiment de me donner les valeurs et de donner les capacités d'être où j'en suis avec Dieu maintenant. Et je ne dis pas que ça a toujours été facile avec les copains et tout ça, mais ça permet aussi ce genre de petits problèmes à grandir dans notre foi, à grandir dans notre maturité, que ce soit chrétienne ou pas. Et ouais, je pense que cette école, je pense que c'est important d'avoir effectivement les mêmes valeurs, que ce soit à la maison, à l'église et à l'école.
Moi, je voulais dire aussi quand il a parlé du pardon, je trouve que c'est important. Je crois que souvent, quand on a des petites dissensions en couple, en famille, il ne faut pas se leurrer, il y a toujours des fois, on voit les autres comme des gens, waouh, ils sont bien, tout ça, ça doit toujours bien aller chez eux, et nous, on s'engueule, on est toujours comme si ça ne va pas, oh, voilà, alors nous, alors vraiment, mais eux, oh, le rêve. En tout cas, moi j'ai souvent eu, hein, je ne sais pas si vous avez eu ces pensées-là, et moi j'ai toujours vu mes parents, mes parents, j'ai des fois raconté, mais ils étaient des caractères différents. Ils sont souvent engueulés, ça a souvent chauffé à la maison. Mais moi, ce qui m'a parlé dans mon cœur d'enfant, c'est qu'ils se demandaient toujours pardon après. Ce n'était pas un problème. Ils avaient beau, ça chauffait. Et puis tout d'un coup, et voilà. Et à la fin, ils se regrettaient, ils se demandaient pardon. Donc Gaël, si tu as envie de t'énerver une fois,
tu peux,
mais réconcilie-toi. Mais enfin voilà, c'est vraiment ça. Je crois qu'il y a quelque chose. Dieu, d'ailleurs, vous regardez dans la Bible, il n'y a rien dans la Bible qui montre que la colère est réellement quelque chose comme un péché. On ne doit pas se coucher sur notre colère. À un moment donné, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'être comme ça, de vivre, mais on ne doit pas se coucher. On doit rentrer, réaliser, revenir en nous-mêmes et puis se dire, mais attends, là, ça n'a pas été. Et puis, moi, j'ai toujours vu mes parents comme ça, puis je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, j'ai essayé de le refaire avec mes enfants, mais ça va, on s'achauffe quand même, de temps en temps, mais pas trop. Hein. Ça va. Hein. Bon, on est assez clairvoyants. Et puis, une autre chose où c'était bien, qu'on a fait, c'est de se mélanger justement avec d'autres familles. C'est-à-dire faire des camps, on a fait des camps famille de foi, on était 150 personnes, donc avec, je ne sais pas, il y avait peut-être 15, ça fait 20 ou 30 familles, je pense, des grosses familles, et puis on pouvait voir un petit peu, on mélangeait, on regardait, il y avait des temps, beaucoup de temps de partage entre familles, puis on voyait les autres familles, on se disait, ah ouais, eux, ouais, ils ont quand même des problèmes, hein, plus que nous, mais eux, ils en ont moins, hein, ils font envie. Alors, il y a un petit peu, il y a ce côté-là. On voyait, puis en même temps, les gens nous disaient à un moment donné, je me rappelle d'une fois, je vous donne un témoignage, une fille, je te parle à Olivier Rochat, c'est très bien. Si ton fils, un jour, te dira, papa, j'ai décidé, je ne mets plus la ceinture. Écoute, dans la voiture, ouais, dans la voiture. Écoute, Maël, non, tu sais, dans la voiture, moi, je suis maître de colle, on met la ceinture. Non, papa, je mets plus la ceinture. Bon, c'est arrivé dans une famille. Et puis la fille, rien à savoir. Bon, le père, il a un peu réfléchi, il s'est dit, c'est compliqué. Puis il a pris sa fille, puis il a dit, ah ben on va voir, on va tester, viens, je te mets à côté. On roule un moment, tout ça, mais t'es pas obligé de t'attacher. Moi, je m'attache, mais toi, tu t'attaches pas. Il roule à 40 à l'heure, puis à un moment donné, bam, il a bloqué sur les freins, puis il l'a retenu bien sûr, puis il lui a dit, mais tu comprends pourquoi je te dis qu'il faut s'attacher ? Oui. Et puis depuis, elle s'est toujours attachée. Sans problème. Elle a tout de suite fait le geste. C'est des choses comme ça. Ça, c'est un exemple. Mais il y a plein d'exemples que d'autres familles découvrent, d'autres gens découvrent. Et nous, on n'a pas découvert. Et le fait d'être en contact avec d'autres, voilà, c'est juste génial.
Je rebondis juste sur les camps familles qu'on a fait. C'est vrai qu'on a lu énormément de livres sur la famille, on a fait des formations sur la famille, sur le couple, parce que pour nous c'était important de pouvoir recevoir des outils, on en a reçu beaucoup. Et entre autres, par rapport à la prière avec les enfants, ça nous a donné plein d'idées. Comme une des choses qu'ils ont beaucoup aimé, c'est que quand on rentrait de vacances, on faisait des Pictionary de reconnaissance, on prenait un tableau un peu comme ça, et puis chacun à son tour, on dessinait une chose qu'on avait aimée dans les vacances. Et les autres devaient deviner ce que c'était. Puis quand ils devinaient, on disait « Ah, merci Seigneur pour ça ». Et puis c'était une façon de les impliquer, parce que quand ils ont 3-4 ans, c'est compliqué de dire « Venez, on va prier en famille ». Ce n'est pas quelque chose de très concret, mais avec des supports, ça passe. Où on avait ramassé aussi tout leur... ils avaient une dinette avec plein de fruits et de légumes en plastique. Donc on prenait tout ça, puis on disait « On va faire une salade de fruits de reconnaissance ». Puis on prenait un grand bol vide. Et puis chacun pouvait prendre une banane, et puis le mettre dedans, et puis dire merci pour les vacances, merci pour le soleil, merci pour la piscine, merci. Puis du coup, ils font quelque chose, donc ils sont un petit peu plus attentifs, et puis ça devient un peu plus concret. On avait aussi créé une sorte de jeu, on voulait les ouvrir à l'intercession, donc on avait à cœur de prier pour nos familles qui ne sont pas chrétiennes, pour une missionnaire qu'on connaissait, pour différents sujets. Et puis on avait mis des numéros, jusqu'à 6, et puis on lançait le dé. Puis selon le numéro du dé, ben c'était le sujet de prière qu'on choisissait pour le ton. Et puis c'était plein de petites choses comme ça que, en fait, de nous-mêmes, franchement, on n'aurait jamais pensé à ça parce qu'on n'est pas hyper créatifs. Mais voilà, ça nous a aidés. Et puis on arrive gentiment au bout. Peut-être que certains ont vu au fond de la salle, j'ai mis des livres et entre autres, il y a un livre qui s'appelle « Couple visionnaire » que les Davey utilisent pour faire la préparation au mariage de ceux qui se marient. Et d'après les échos que j'ai eus, c'est un livre qui est sympa. Et puis un autre qui s'appelle « Parents visionnaires », c'est des livres à 12 francs. Moi, j'ai lu énormément de livres. Mais franchement, j'ai trouvé que dans ces deux livres, ça résume bien un peu l'ensemble de ce que j'ai lu. C'est des petits livres, faciles à lire, des petits chapitres. Et puis, voilà, on avait envie juste de... C'est pas quelque chose qui se trouve en librairie chrétienne. On les a eus par... c'est chrétien, mais on les a eus par un autre biais. Vous n'allez pas le trouver au CEP. Et puis, on avait envie de pouvoir vous offrir cette possibilité-là. Alors, c'est pas New Life qui l'ont écrit. Il y a peut-être des choses, en lisant, vous direz, qui vont vous entrechoquer. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment, je pense que 95%, j'étais tout à fait à l'aise. Après, il y avait un chapitre où je me disais, ouais, ça, c'est plus très à la mode. Mais en même temps, on peut se replacer devant Dieu et puis faire la part des choses, puis dire, Seigneur, ben, OK, eux, c'est leur point de vue. Moi, j'en ai un autre. Qu'est-ce que toi, tu me dis par rapport à ça ?
Ok, moi je voulais juste dire, on a parlé de plusieurs piliers, puis moi je rajouterais deux. Dans la famille, chrétien ou pas chrétien, il faut absolument établir un climat de confiance. Un climat de confiance entre enfants, parents, qu'il y ait quelque chose, il faut tout faire pour qu'il y ait ce climat de confiance qui se fasse. J'ai vraiment réfléchi à me dire, mais qu'est-ce qui... Je pense que c'est une des clés qui a fait que ça a bien fonctionné. Ce n'est pas toujours facile parce qu'avec mon grand politicien, ça chauffe bien. Voilà, on est clairvoyant. Mais ce climat de confiance, puis après, quand ils étaient enfants, on a essayé de toujours dire, par exemple, de marcher, enfin d'avertir, d'enseigner nos enfants. Je parle du sujet de la vérité et du mensonge. On a toujours, un des principes, on a toujours dit quand un enfant fait une monstre bêtise, c'est-à-dire que si tu as une Ferrari, puis tout d'un coup, il commence à faire du skate sur le capot, puis tu te dis, ah, ça va me coûter. On a toujours eu de la retenue énorme pour leur faire une remarque là-dessus. On leur a dit, ouais, ben écoute, c'est pas bien, il y a des fruits, tout ça. On s'est toujours retenu. Par contre, s'ils avaient fait ça, puis qu'ils nous l'avaient caché, alors je peux vous dire, on avait une imagination de punition, de sanction, de trucs. Donc, on les a toujours encouragés à dire la vérité. Un enfant, ça fait des bêtises. Faut pas s'énerver, en tant que grand, ça fait des bêtises. Plus ou moins graves, mais... Ça, c'était vraiment quelque chose, je pense, qui nous a vraiment aidés. Ils ont appris à nous dire, écoute, j'ai cassé le vitre de madame du voisin, ma foi, elle n'a pas de contente. Voilà, bon. Ils nous disaient, toi, toutes les bêtises qu'ils faisaient, ils nous disaient. Puis pour nous, c'était vraiment une aide. Voilà. Donc, OK. Toi, tu voulais...
Restez seulement debout. Vous pouvez vous lever, peut-être juste. Alors moi, je voulais juste poser deux, trois questions avant qu'on les applaudisse, parce que l'heure avance. C'est si facile d'être parent, en fait. Vous arrivez le soir, on va faire la prière, les enfants, ils claquent les portes, ils viennent, ils s'asseyent, vous priez, c'est comme ça. Vous n'avez rien besoin de faire d'effort, en fait. Parce que moi, je vous écoutais, puis je ne suis pas arrivé là, en tout cas, je ne suis pas arrivé à faire ce que vous avez vécu. Je me sens un petit peu dans mes petits souliers. Et puis je me dis, bah, en fait, c'est tellement facile, c'est peut-être une exception de famille qui font partie d'une exception en Suisse romande. Et puis je voulais vous demander, est-ce que c'est... Vous avez dû payer un prix pour faire ça ou non? C'était vous dire, hop, les enfants, on y va, on prie. Puis vous aviez toujours envie, c'était tellement facile. Quelques minutes, si vous pouvez répondre à ma question, ça m'enlève un petit peu de poids sur mes épaules parce que, je sais pas, enfin, les autres pas, mais moi, je me sens un petit peu à l'échelle en dessous. Allez-y, rapidement.
Non, je ne sais pas quoi dire. Non, ben, je pense que comme on l'a dit au départ, c'est quelque chose qui se construit. Puis là, on vous a donné plusieurs clés. Je pense que tout l'écho qu'on a fait, l'école, l'église, c'était un tout. Le fait que aussi rapidement, ils puissent s'engager dans l'église à la louange, ça les a motivés aussi. Il y a des soirs où ils n'ont pas envie de prier. Il y a des soirs où c'est nous qu'on n'a pas envie de prier. Puis oui, ils nous disent « Bon, on fait la prière !» voilà, comme disait Mathieu, des fois c'est plus ou moins long parce que ben parce qu'on est humain. Des fois il y en a pas, des fois voilà, c'est quelque chose qui se construit. Je pense qu'il faut y passer de l'énergie et puis ben, comme on l'a dit au début, on a aussi nos zones rouges, on a aussi nos moments de lutte.
Et toi Alex, toi c'était facile. Le boulot.
Ouais, ça toi,
tu rentres à 8h le soir, tu rentres à 8h quoi, des fois à 8h30 voire 9h.
Ouais.
Et tu te dis vite, on va aller faire une prière ou deux puis jouer avec les gars.
Ah bien sûr, bien sûr. Faire l'histoire.
C'est vrai, c'est bien que Bob intervienne parce que ça marche plus. On a tout déballé là, mais moi je crois qu'il y a aussi une sagesse à avoir. On a longtemps été en mode survie, hein. Voilà. Ça c'est très important à vous dire. Alors c'est vrai que le temps passe tout ça, puis on a voulu essayer de déballer quelque chose. Qui encourage, mais je pense qu'à un moment donné, faut sentir quand on est en mode survie, en famille, de se dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est pas possible. Il y a pas besoin de faire parce qu'on est chrétien, puis que voilà. Alors on a à un moment donné, on se dira ben on va juste prendre un temps de prière. En tout cas, ce qui est clair, en tout cas de notre famille, c'est que Dieu nous a toujours aidés dans nos moments. Tout ça dans nos moments difficiles, comme dans nos forts moments, Dieu nous a toujours aidés. Et ça, c'est une clé. Et pour moi, c'est essentiel. Il est là, il nous aide. Mais on a été dans des moments, alors ouais, on survit, voilà, longtemps, des années.
Merci, ça me fait du bien. Je ne sais pas à vous, mais moi, ça me fait un peu de bien. Ce que je voudrais dire, on est honoré d'avoir cette famille au milieu de nous. Je voudrais vraiment qu'on la prenne comme une famille ressource. Quand on parle de ressources dans New Life, déjà, on est une famille. New Life est une famille. On est une famille en mission, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Et si on a plusieurs familles ressources au milieu de nous, et c'est une famille ressource. Et je parle surtout aux jeunes parents. Et ce matin, c'était vraiment plus pour vous que pour nous, mais il y a des clés pour tout le monde. Mais c'est vraiment que nous, on a déjà fait un bout, mais vous pouvez tout recommencer ou tout revoir. Et vous avez cette chance-là. Alors c'est sûr, 100% on n'arrivera pas parce que c'est l'identité d'une famille et il y a plein d'autres familles, c'est ce qui fait cette beauté de notre Église. Et je vous invite à prendre 2 ou 3 clés et à essayer de les placer au milieu de vous. On ne vous dit pas que New Life veut que tous les enfants aillent à l'école chrétienne, ce n'est pas ça qu'on dit, d'accord? On n'a pas dit ça. On a dit que c'était une possibilité, voilà ce que ça apporte, voilà ce que ça a fait chez eux. Chaque famille, vous avez vu, il n'y a pas de livre vraiment pour être parent, il n'y a pas de bon livre. Chaque parent a des autres enfants. Et chaque homme a une autre femme. Et donc, c'est toujours une combinaison et une chimie qui doit se vivre. Et je veux juste enlever, s'il y a eu un poids de culpabilité sur vos vies aujourd'hui en entendant ça, Dieu est souverain, on l'a chanté, Dieu est tout puissant, il est au-dessus de tout et rien n'est impossible. Et je pense qu'une des clés, comme il l'a dit, on a dit parole, prière, je vais finir avec ça. Je pourrais ajouter amour et pardon, ce qui apporte cette confiance. Et je crois que si ces 4 piliers sont au milieu de nous en tant que famille New Life, au milieu de nos familles respectives, et donnés à d'autres, on aura toutes les familles de la terre selon la promesse qui a été faite à Abraham et Jacob. Et je crois que c'est là-dessus que je voudrais qu'on reste ce matin. Et je voudrais juste, au lieu d'applaudir la famille Huguet, si on peut, si vous avez envie, sentez-vous libre, de vous lever, de tendre les mains, vous de mettre dans une position, de transmettre quelque chose, et juste de bénir à haute voix, tous ensemble, en prière, cette famille, pour qu'elle puisse être encore plus puissante au milieu de nous, qu'elle puisse être encore plus remplie de cadeaux pour nous, et qu'on puisse recevoir toutes les autres familles qui se lèveront suite à ce matin. Si vous êtes OK, on se lève et on prie. Eux, ils voulaient prier pour vous. Ben moi, non, je crois que c'est bon qu'on fasse le contraire. Ils nous ont déjà assez donné. Vous êtes d'accord? OK. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Et ce qu'on souhaite, c'est que Dieu continue à vous unir en puissance, en vie, dans tout ce que vous êtes. Et vous êtes précieux pour cette famille, New Life, comme toutes les autres familles. Et ce matin, on veut vous reconnaître et vous honorer par ces prières. C'est nos applaudissements pour ce que Dieu a fait comme témoignage dans votre vie. Alors, recevez. Allez-y à haute voix, il n'y aura pas de micro. On prie, prie à haute voix. Et puis ceux qui doivent s'en aller, vous pouvez en aller en soi dimanche prochain, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous ceux qui ont préparé le déjeuner et qui ont mis les tables pour nous accueillir. Merci, vous faites vraiment partie de la famille. Bénissons.